Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Comic City, un épisode spécial cette fois-ci, car nous sommes en compagnie de Jérémy Manès. Bonjour Jérémy.
Bonjour. Bonjour.
Et bien sûr avec nous, Nono.
Oui, bonjour. Effectivement, aujourd'hui nous avons Jérémy Manès avec nous qui va nous parler un peu de lui déjà, savoir comment il a atterri là où il en est à l'heure actuelle. Et il va nous parler également du métier de traducteur, parce que bien souvent on critique les traducteurs en disant « ouais, franchement, c'est pas top, il y a des erreurs de trad, etc. Ça veut pas dire ce que ça veut dire en VO. » Et là, on s'est dit, allez, on va donner un droit de réponse à un grand traducteur français, à un des plus connus en tout cas, qui est Jérémy. Donc voilà, et ça fait également suite à un commentaire que j'avais eu sur une de mes reviews de monsieur Jean-Marc Lenné qui me disait que justement le métier de traducteur était pas un métier si facile que ça et que il fallait les prendre en considération. Donc Jean-Marc, si tu nous écoutes, ce podcast est pour toi. Donc Jérémy, vas-y, dis-moi comment t'es arrivé, quel est ton parcours en fait.
Ben moi au départ, je suis comédien et auteur de théâtre, metteur en scène, et en fait les comics je dis toujours que c'est un hobby qui a bien tourné parce que je lis ça depuis que j'ai 10 ans, et en fait je suis rentré dedans un peu par hasard à l'époque où Panini justement a récupéré la licence Marvel en 97. Ce qui correspondait à peu près au début d'Internet. Et en fait, moi, quand j'ai eu Internet, les premières choses que j'ai fait, c'est discuter avec des fans américains sur les newsgroups. À l'époque, c'était même pas les forums. Ouais. Et un soir, en regardant mes mails, j'avais un mail de Marco Lupoi qui me disait, oh, bah, c'est pas souvent qu'on envoie des Français sur les newsgroups américains. Je me présente, je suis Marco Lupoi, directeur de Panini. On vient récupérer la licence, machin. On est content que parce que j'avais plutôt dit du bien de ce qui se faisait, de leur démarche. Et bon, moi, voyant la porte ouverte, j'ai mis violemment le pied dedans en disant « Je suis auteur, j'écris, etc. Donc s'il y a quelque chose à faire, moi, c'est comme vous voulez, etc. » Il se trouvait qu'au début de Panini, France, ils avaient très peu de monde, en fait, qui était vraiment localisé en France, quoi. C'est-à-dire que toute la structure fonctionnait, ils étaient 3 ou 4. Et donc, ils avaient extrêmement besoin de gens qui soient français et qui s'y connaissent et qui puissent écrire, quoi. Et donc j'ai commencé comme ça, en écrivant des éditos, en faisant les courriers des lecteurs pendant pas mal de temps, et en essayant de me vendre comme traducteur, ce qui au début fonctionnait pas vraiment, parce que il y avait une équipe qui était là depuis longtemps, pour qui c'est quand même une bonne rente, quoi. Il faut dire ce qu'il y a, et qu'il n'y avait pas forcément besoin de nouveaux traducteurs. Et puis quand on a récupéré DC et Vertigo, j'avais commencé à faire des traductions pour Wizard et des trucs comme ça, et ça a été l'occasion vraiment que je prenne un peu plus de place, et maintenant voilà, je fais la traduction, je fais les éditos, enfin maintenant je fais surtout partie de l'équipe éditoriale, c'est-à-dire que je participe aux réunions où on discute de l'avenir des revues, etc. Et voilà, et je continue quand même à être comédien et auteur à côté.
Et justement, c'est pas trop difficile de gérer ces deux carrières qui sont vraiment distinctes l'une de l'autre en parallèle?
Ça bouffe énormément de temps. Là, justement, je suis sur l'écriture de ma nouvelle pièce, et ça fait 3 mois que je me débats pour me défaire de mes urgences Panini pour avoir le temps de me pencher sur ma pièce. Et bon, là j'y suis enfin arrivé, mais c'est des fois, c'est du point de vue temps, c'est difficile à gérer. À côté de ça, c'est deux métiers passionnants, enfin c'est je vis deux passions. Des fois les gens sont contents d'arriver à en vivre une, moi j'en vis deux, donc je vais vraiment pas me plaindre.
Et donc ouais, t'es un peu un enfant de Strange, etc. Et,
voilà, complètement.
Ouais. Voilà. Et comment se décompose une journée type pour toi chez Panini?
Je bosse quand je peux, quoi. C'est-à-dire, je bosse quand mon fils fait la sieste, je bosse le soir, je bosse dans le train pour préparer les fichiers, etc. Enfin, je bosse quand je peux, quoi. J'ai pas vraiment d'horaire. Il y a des jours où je peux bosser 6 heures d'affilée.
T'imagines que là, t'es en train de faire rêver tout le monde en disant que t'as pas d'horaire particulier, tu bosses quand t'as envie, quand même.
C'est
Je
ça.
bosse quand j'ai envie, mais il faut quand même bosser parce que le traducteur, il est payé à la page. Donc s'il bosse pas,
Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de ne pas avoir de contraintes comme ça va faire rêver beaucoup de monde, je pense.
Ah, c'est sûr, ça a ses avantages. L'inconvénient, c'est que, eh ben, il faut se pousser au cul soi-même, quoi, quand même, pour faire ses deadlines et pas se retrouver trop en retard. Il faut arriver à avoir une certaine rigueur dans son planning.
C'est toujours le plus dur à mettre en place en général, ça.
Ouais.
Et donc justement, tu dis que tu participes aux décisions éditoriales de Panini. Comment vous vous organisez? Tu vas en Italie, les décisions se prennent quand même en France.
Alors moi, c'est très récent. C'est très récent parce que ils m'ont proposé ça depuis juillet dernier, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire, c'est la première fois que je suis allé carrément en Italie pour assister à la réunion éditoriale où on a vraiment planifié toute l'année 2012. Et il se trouvait que quand il m'avait proposé ça, on n'avait pas encore perdu les droits de DC, donc c'est devenu quelque part une réunion de crise un petit peu pour parce qu'il fallait forcément qu'on rééquilibre notre planning du fait qu'on avait perdu cette licence qui correspondait à quand même pas mal de parutions, quoi.
Oui, c'est sûr.
Et donc ça aboutit à, en même temps, c'est intéressant que j'arrive à ce moment-là parce que du coup, toutes les idées qu'on pouvait avoir sur la publication des séries Marvel étaient les bienvenues, quoi, et sans doute plus écoutées qu'elles l'auraient été une autre année.
Et justement, comment vous avez fait pour gérer cette crise qui vous est un peu tombée dessus,
Ouais.
d'après ce que Sophie m'avait dit, un peu comme ça, sans vous y attendre?
Ouais.
Alors que c'était quand même Panini qui avait dégrossi DC en France, parce que la France est quand même plus Marvel que DC à la base, et c'était vous qui avez introduit tout ça. Et comment vous avez su gérer cette crise?
Ça a été pas évident il y a eu 10 jours, 2 semaines assez coup de massue quand même, un peu où tout le monde était sonné. Et puis finalement, je dirais que ça nous a un peu quelque part boosté, quoi. Ça nous a remobilisé. On a pensé à toutes les choses qu'on aurait pu faire avec la licence qu'on n'a pas eu le temps de faire, et on s'est dit bah maintenant faut faire les choses, faut pas repousser à plus tard, faut faire les choses quand on a l'idée, parce que quand on a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de licences différentes, etc., bah il peut y avoir un certain train-train qui s'installe et tout ça. Tandis que là, bah, on se recentre sur Marvel, on a quelques séries sous le label Fusion qui sont pas du Marvel, mais l'essentiel maintenant de notre publication comics, c'est Marvel. Et du coup, on s'est vraiment concentré là-dessus, et on s'interdit plus rien. On peut avoir des idées comme ça qui se réalisent dans la semaine, alors qu'avant il fallait tout un processus. On avançait assez tranquillement, et là on est plutôt dans un truc très dynamique.
D'accord. Et là, justement, on voit que vous avez en fait entièrement réorganisé votre collection.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui sont arrivées, comme par exemple, pardon, les éditions Marvel Select, le label Fusion qui a également évolué par rapport à ce que c'était par la suite. C'est des décisions qui résultent du changement d'essai, ou c'était des décisions qui étaient déjà prévues avant?
Ça dépend quoi. Je dirais que le fait de réunir toutes les séries non Marvel sous le label Fusion est sans doute une conséquence indirecte de plus avoir DC, parce que du coup la distinction devenait plus facile à faire. On avait Marvel et ce qui était pas Marvel. Alors qu'avant, il y aurait Marvel, DC, enfin c'était plus compliqué à mettre en place et pas forcément très clair. Tandis que là, ça s'y prêtait bien. Après, pour ce qui est de Marvel, oui, il y a eu des choses qui ont été pensées du fait que voilà, on sort tant de revues par an. DC, ça représentait peut-être, je sais pas. 25-30% de ce qu'on publiait en comics, et il peut pas y avoir un vide, quoi. C'est-à-dire
Oui,
qu'il
il fallait
faut
combler.
trouver des choses à faire, etc. Et en même temps, voilà, on s'est dit que dans un marché concurrentiel, du coup, qui redevenait plus concurrentiel, ben c'était intéressant d'inventer des collections pas chères, puisque tu parles de Marvel Select ou Marvel Gold, avec des prix vraiment compétitifs pour les indispensables de Marvel, quoi, qui est une espèce de collection comme ça, d'incontournable, où les gens peuvent taper dedans, les albums coûtent pas cher, et c'est des sagas qui ont fait leur preuve.
Oui, c'est vrai que c'est hyper intéressant, que ce
c'est
soit pour
collection.
Les voilà pour les nouveaux arrivants dans le milieu du comics
ou même pour les anciens,
Je veux dire, moi par exemple le House of M, bah, je le trouvais pas en deluxe et là le fait de l'avoir en select.
Mais d'ailleurs le fait de réimprimer House of M, il y a pas mal de choses qu'on réimprime là. Il y a une fausse déduction qui est faite souvent sur Internet, mais d'ailleurs tout ce qu'on fait en ce moment, en gros les gens déduisent que c'est parce que Urban est arrivé.
Oui.
Mais il y a beaucoup de choses, et ça en particulier, le fait de réimprimer plus, qui est une réflexion qui date d'avant, qui s'est retrouvée coïncider avec ça, mais on a eu de nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'équipe. On a Guillaume Coué qui est venu, qui s'occupe vraiment du stock et des relations avec les libraires, etc. Et c'est quelqu'un qui est arrivé avec de bonnes idées et qui nous a poussé à ne plus avoir des ouvrages importants épuisés, quoi.
Oui.
Et donc il y a eu un vrai effort là-dessus qui, pour le coup, n'est pas du tout lié au fait qu'on ait perdu DC.
D'accord.
Il y a aussi cette opération Flash Forward que vous avez mis en place depuis quelques mois maintenant.
Ouais.
Qui est vraiment génial, je trouve, puisqu'on réduit ce décalage avec les États-Unis.
Mmh.
Ça permet aussi de privilégier un petit peu le marché français, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se tournaient vers la
Vidéo. Oui, on a récupéré des gens comme ça. Il y a beaucoup de gens. Bon, après, de toute façon, quoi qu'on fasse, il y a toujours qui râle. C'est le principe du fan de comics, c'est qu'il râle beaucoup.
Mais c'est le principe d'être français aussi.
Voilà, donc le fan de comics français s'accumule. Mais le fait de rattraper, ça a quand même fait plaisir à pas mal de gens. Ça fait que... ben forcément on est moins spoilé à l'avance sur les événements qui passent. On démarre un crossover, il vient de finir aux États-Unis, donc on est encore dans la même énergie. Enfin, il y a quelque chose de plus fluide, quoi. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, parce que il faut être très très réactif par rapport à l'actualité américaine.
Là, les décisions se prennent beaucoup plus vite, du coup.
Se prennent beaucoup plus vite, et il faut être capable de changer son fusil d'épaule. On a beaucoup d'adaptations. Là, on se retrouve cette semaine à modifier carrément le planning des revues de juin, qui devait partir à l'impression carrément cette semaine.
Ah oui.
Parce que on a changé notre fusil d'épaule par rapport à plein de choses, quoi.
Mais j'ai vu par exemple que vous allez publier AVX à partir du mois d'août. Ça fait quand même un délai très très court.
Non, alors c'est le prologue qu'on va... En fait,
d'accord.
On fait une revue X-Men Avengers en août, septembre, octobre, où il y aura la mini-série Extinction sur les deux premiers numéros, et le Avengers X-Men 0 dans le troisième numéro. Et en fait, le crossover lui-même commencera en novembre.
Ça reste quand même un délai relativement court.
7 mois, voilà. Maintenant, en fait, c'est la fenêtre qu'on vit, c'est 7 mois d'écart entre les États-Unis et la France.
D'accord. Ça pose pas trop de problèmes au niveau recevoir le matériel US, justement.
C'est plus compliqué.
Qui peuvent se poser aussi.
Bah voilà, il y a des séries, il peut y avoir des retards, peut y avoir du matériel qui met du temps à arriver, etc. Donc ça arrive que la rédaction demande aux traducteurs d'être assez vigilants par rapport au planning, de leur rappeler s'il y a quelque chose qu'ils nous ont pas envoyé pour pas qu'on se retrouve planté, quoi. Ça demande un petit peu plus de vigilance de tout le monde, et puis encore une fois de la réactivité par rapport au planning, quoi, parce que quand on fait un planning jusqu'à la fin de l'année, donc en incluant des épisodes qui sont pas encore sortis même aux États-Unis. Et ben il faut faire gaffe au moment où elles sortent, que de voir si ça colle bien, si on spoile pas les revues entre elles.
Il n'y a pas de retard aussi aux États-Unis, par exemple.
Et aussi voilà des choses comme ça. Et puis voilà, on peut aussi compter beaucoup sur une série qui va changer d'équipe artistique au bout de 3 numéros, des trucs comme ça. Enfin c'est ça peut être assez compliqué.
Hulk par exemple.
Par exemple, le cas Hulk, ou je pense aussi à Ghost Rider qu'on a intégré à Marvel Knights, et puis quand on s'est aperçu que la série s'arrêtait, ben c'était lancé, donc on continue avec. En même temps, les lecteurs sont gagnants, parce qu'on se retrouve à publier des séries où peut-être on se serait posé la question si on avait su d'avance qu'elle allait jusqu'à 9 numéros, alors qu'on sait bien que une série qui dure pas longtemps, c'est pas forcément qu'elle est mauvaise, c'est juste qu'elle a pas trouvé son public.
Oui, bien sûr. Ce qu'on oublie aussi de préciser, c'est que c'est toi qui gères le Facebook de Panini.
Ouais. Le Facebook et la newsletter également.
Oui. Ouais.
Ça, j'imagine que ça va te rajouter une bonne quantité de boulot, puisque bah c'est quand même assez actif.
Oui. Mais voilà, c'est un peu le. Depuis le courrier des lecteurs, justement, j'ai cette histoire avec les lecteurs de Panini, enfin ce contact particulier. Le fait maintenant que je fasse partie de l'équipe éditoriale, ça fait vraiment que je me retrouve à être à une place privilégiée, quoi, dans le dialogue avec les lecteurs. Et du coup, c'était important que je continue à faire ça. Ensuite, voilà. Que ce soit la newsletter, il faut penser à la faire chaque semaine, quoi. Des fois, ça peut m'arriver de la zapper et qu'elle ait un ou deux jours de retard. Facebook, maintenant, j'ai un planning assez régulier. Je poste une nouvelle couverture par jour, je donne une news par jour. Et puis, le reste, c'est répondre aux questions, etc. Donc, ça se fait n'importe quand, ça se fait en faisant la cuisine. Enfin, c'est l'avantage.
Ouais. Et justement, vis-à-vis de Facebook, ça t'énerve pas la réaction des gens où c'est un peu tout le temps les mêmes choses qui reviennent? Ça m'arrive, c'est rare que je lise les commentaires parce que, voilà, la vie des gens, j'ai mon propre avis, ça me suffit. Mmh. Mais, de temps en temps, quand je m'amuse à lire les commentaires suite à une news ou suite à une couverture, c'est un peu tout le temps les mêmes reproches qui reviennent au fur et à mesure, quoi.
Oui. C'est exactement la question que j'allais poser.
C'est les mêmes reproches, mais c'est aussi les mêmes personnes. Faut voir que la page Facebook, on arrive à plus de 7000 fans. Le nombre de personnes qui s'expriment vraiment régulièrement sur la page Facebook, c'est une cinquantaine à tout péter. Ouais. Donc voilà, les revues continuent à fonctionner. Il y a quand même des choses. Il y a aucune news qui fait plaisir à tout le monde. Ça, j'ai fait mon deuil de ça. Et je veux dire, là même, on réunit des séries, il y en aura toujours pour dire ah oui, mais moi je voulais lire que celle-là, etc. Enfin, il y a jamais moyen de toute façon de satisfaire tout le monde. Après, il y a ceux qui arrivent à faire la part des choses et à voir les efforts qu'on fait. Et puis ceux, il y en a quand même, oui, qui voient vraiment midi à leur porte et qui, tant qu'on fera pas exactement le planning que eux auraient fait pour eux, ils seront pas contents, quoi.
Bah, c'est vrai qu'il y a aussi deux trois personnes, notamment j'en pense à une, cette personne se reconnaîtra, je pense, qui prend souvent la défense de Panini et qui aide beaucoup les autres lecteurs. Je pense qu'on va
Dorian.
Qui on va parler, voilà.
Voilà. Je me suis toujours demandé d'où il sortait, ce mec-là. Parce que j'ai l'impression qu'il sait mieux que Panini ce que Panini va faire. Ah, c'est toujours intéressant ce qu'il apporte, mais tu dis, mais en fait, il bosse là-bas. C'est lui le patron de Panini, parce qu'il a les réponses que beaucoup de gens n'ont pas.
Il pourrait, sauf que le problème, s'il était patron de Panini, c'est que lui, comme il aime justement que les petites séries et pas tellement les grosses machines, etc., on devrait couler depuis longtemps. Mais à côté de ça, c'est un vrai passionné. Il a ses convictions, mais il arrive à faire la part des choses, justement, et à séparer ses envies à lui et l'aspect entreprise, qui fait que plus on arrive à faire des séries qui durent dans le temps, et mieux c'est pour le marché, quoi. Et donc il arrive à voir ça, et moi il me gagne énormément de temps parce qu'il répond à tout un tas de questions sur le planning auxquelles ça me fatiguerait forcément de répondre, parce que c'est souvent des trucs que j'ai déjà dit, quoi. Donc après, évidemment, les gens vont pas aller fouiller la page pour trouver les vieilles réponses, mais qui est deux trois types comme lui qui soit sur le coup pour renseigner les gens, c'est sûr que ça me soulage un énorme poids. Je profite de ça pour le remercier parce que c'est sûr qu'il est d'une grande aide. Et après, voilà, souvent il défend Panini contre les remarques injustes, mais il peut aussi être très critique quand il y a quelque chose qui lui plaît pas. Le connaissant bien maintenant, je sais les décisions qu'on peut prendre qui vont pas lui plaire. mais voilà, globalement, je sais que par exemple lui, il fait partie de ceux qui sont plutôt satisfaits de l'orientation qu'on prend en ce moment, quoi.
Et concernant la page Facebook, est-ce que toi-même tu t'amuses de temps en temps à dire tiens, je vais poster cette news là, je vais avoir ce type de réaction. Est-ce que maintenant tu arrives sais anticiper les réactions des gens sur
Oui, quand j'ai posté la nouvelle qu'on allait passer tous les mensuels de 96 à 112 pages, je me
Et pour
suis
le
dit,
poisson d'avril?
qu'est-ce que ce serait bien de le placer, d'annoncer la nouvelle le 1er avril, parce qu'il va y avoir 24 heures où les gens vont s'arracher les cheveux. C'est assez rigolo d'embêter un peu comme ça les...
Oh, c'est de bonne guerre.
Oui.
Enfin, voilà. Non, et puis ça fait parler, voilà. C'est quand même un lectorat qui est très vivant, quoi. Donc, c'est bien de participer à ça en rendant tout ça un peu ludique.
Donc maintenant parlons un peu de ton métier de traducteur en fait. Comment tu travailles? Comment tu fais ça?
Comment je travaille? Mais en fait c'est assez simple. Je vois l'ordre dans lequel il faut que je rende les albums et je les prends dans l'ordre dans lequel ils viennent. J'essaye de travailler, de pas travailler sur plusieurs choses en même temps, en fait. C'est-à-dire que quand j'attaque un album, ben je bosse là-dessus et pour garder quand même une espèce de continuité, quoi. Je me relis un petit peu ce que j'ai fait avant et voilà, j'essaye de pas être sur quatre choses en même temps. Là, récemment, j'ai été obligé un petit peu de jongler parce que j'ai accepté de traduire l'omnibus Act of Vengeance, qui est quand même un truc de 740 pages, hyper bavard,
oui.
Et dont j'ai eu énormément de mal à me dépêtrer. Donc je me suis retrouvé à envoyer des bouts de traduction tout en faisant avancer le reste en parallèle, parce que sinon j'y arrivais pas. Mmh. Mais voilà, sinon la plupart du temps j'essaye de rester centré sur l'album que je suis en train de faire, quoi.
Ça me, justement, tu parles d'Axe of Vengeance et ça me fait penser à une question qu'un des membres de l'équipe m'a soufflé, King Ed, je le nomme puisque c'est sa question, par rapport à Axe of Vengeance, justement, qui est du matériel un peu plus ancien, quand tu fais une traduction d'un matériel un peu plus ancien, est-ce que tu es plutôt du genre à adapter à l'époque d'aujourd'hui avec un langage d'aujourd'hui ou est-ce que tu gardes plutôt le style de langage de l'époque?
Ouais, moi je me situe dans le cadre dans lequel ça a été écrit. Je j'utiliserai pas les mêmes termes pour traduire les mêmes mots si je traduis du Bendis ou du Stanley, quoi. Si j'écris un truc qui a été écrit dans les années 80, et ben j'ai plutôt mes souvenirs justement de ce qu'on lisait dans Strange à l'époque, etc., des formules, des tournures de cette époque-là. Du fait qu'on avait pas du tout de gros mots ou quoi que ce soit, donc des choses comme ça, et oui, je m'adapte à l'époque à laquelle ont été écrits les BD, ouais.
Et justement, c'est parce que vu qu'on parle de ça, on va aborder ce sujet tout de suite.
Le sujet polémique.
La plus
vas-y
pour la traduction de vieux matériel, c'est Madame Geneviève Coulon. Donc, parce que moi, quand je lis les intégrales, tu sais, les compagnies publient les intégrales X-Men, Vengeurs, Spider-Man, etc., j'ai toujours l'impression de lire des trucs, mais voilà, qui datent, et je me dis, mais merde, pourquoi on pourrait pas le réactualiser, voir des expressions style mirliflore ou couture ou des trucs comme ça. Tu dis, mais c'est les gamins qui lisent ça maintenant, qui veulent voir les origines de Spider-Man, les origines des Vengeurs, etc., ils captent rien.
Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, en préambule, moi, je fais de la traduction et je me sens pas du tout à l'aise pour juger de ce que font les autres traducteurs.
Oui,
surtout,
oui.
Voilà.
C'est pas le but de la question.
Oui, non, mais si tu veux, le cas de Geneviève est assez particulier parce que c'est quelqu'un qui a été beaucoup beaucoup chahuté sur Internet.
Ben nous, on avait une théorie au sein de l'équipe Comic City. C'est la théorie qu'on. Je me souviens, je sais pas si tu t'en souviens, si on en avait parlé il y a hyper longtemps. On s'était dit cette dame n'existe pas. Et en fait, c'est du Google Trad de l'italien vers le français.
Non, pas du tout, parce que Google Trad n'utiliserait pas des termes comme t'as pu dire,
oui.
Etc. Geneviève, c'est quelqu'un qui a une culture plutôt San Antonio, tu vois, enfin de cette époque-là, tout ça. Donc, elle était plutôt, c'est quelqu'un qui travaillait depuis très longtemps chez Panini et avant chez Semic et chez Lug et tout ça. Et comment dire, c'est quelqu'un donc du coup qu'on mettait sur du matériel ancien justement parce qu'elle avait un style qui était plus adapté à ça. Après, c'est quelqu'un donc qui a été beaucoup attaqué sur Internet. C'est quelqu'un qui n'a pas Internet. Et il se trouve que dans le courant de l'année dernière, elle est allée sur Internet, je sais pas comment ça s'est passé chez une amie, et elle s'est pris dans la gueule d'un coup tout ce qui se disait d'elle sur Internet depuis des années. Et,
ça lui fait très mal.
Et en fait, Geneviève ne travaille plus avec nous, elle a pris sa retraite après avoir vu ça. Donc voilà, vous verrez que son nom n'est plus dans les albums.
On avait remarqué, oui, effectivement.
Voilà,
oui.
C'est parce qu'elle a décidé de plus travailler avec nous. Et quoi qu'on pense de ces traductions, je trouve ça assez triste que ce soit fini comme ça.
Bah,
quoi.
Voilà, là, la fin de l'histoire est un petit peu dommage.
Ouais. Oui, voilà. Et mais voilà, moi je suis un peu. J'ai évidemment mon avis sur surtout mes collègues, etc. Mais à la position où je suis et du fait que je suis aussi traducteur, je me sens toujours très très mal placé de commenter ça, quoi.
Ah bah c'est tout à fait normal, bien sûr.
Voilà, souvent je suis accusé du coup de langue de bois ou de beauté en touche, etc. Mais c'est un principe, quoi. Je me sens pas, je me sens pas. Et ce serait des gens qui bosseraient que pour la concurrence, ce serait pareil. Ouais.
je pensais en fait, Nono, que tu allais aborder l'autre sujet polémique du moment. Puisque c'est le choix, et justement avec les années 80, la question, je vais te la reposer aussi par rapport à Axe of Vengeance, mais le choix de la concurrence hein, Urban de traduire les noms.
Alors,
quelle est ta position là-dessus
position, en fait, chaque traducteur a sa position là-dessus. Moi, ma position, je suis assez assez partisan de traduire les noms en général. Par contre, je suis aussi assez partisan d'avoir une certaine cohérence par rapport à ce qu'on fait. C'est moi en fait qui il y a quelques années chez Panini, au moment où on a eu DC, j'ai proposé l'idée parce qu'on commençait à travailler sur, on était 6, 7, 8 traducteurs à travailler sur les séries DC chacun de notre côté. Et avec que des personnages qui étaient nouveaux pour nous, quoi, et pour pas mal de lecteurs. Et moi, j'ai avancé l'idée que si on travaillait chacun de notre côté comme ça, ça allait vite être le bordel, que les noms correspondraient pas. Et j'ai proposé l'idée de faire un fichier commun, en fait, que je centralise, où tous les traducteurs m'envoient quand ils tombent sur un nouveau personnage, la correspondance qu'ils ont choisie, s'ils ont choisi ou pas de traduire le nom. Moi, je compile tout ça, j'en fais un fichier que j'envoie à tous les traducteurs régulièrement, que je mets à jour, et ça nous sert de bible, en fait. Donc, à partir du moment où un nom a été choisi, qu'on ait choisi de traduire ou de pas le traduire, et ben, en fait, on s'aligne tous dessus, parce que voilà, c'est normal que dans la même équipe, on joue tous selon les mêmes règles, quoi. Oui. Donc, même si moi, il y a des noms que j'aurais préféré traduire, etc., si on a décidé qu'ils n'ont pas été traduits, ben, je continue avec ce nom-là. Après, ça dépend aussi des personnages. Les personnages les plus emblématiques, c'est sûr que c'est délicat de traduire les noms parce que ils sont connus comme ça depuis longtemps. On va pas tout d'un coup appeler Batman l'homme chauve-souris pour un changement. Non, mais voilà, tu vois, c'est, je veux dire, ça voudrait rien dire. Par contre, c'est sûr qu'il y a, d'une manière générale, quand le nom a une signification en anglais, je trouve ça logique qu'il en ait une en français. Quand tu lis Le Seigneur des Anneaux ou quand tu vois Games of Thrones, Le Trône de Fer, et ben les noms sont traduits. On a Bilbo Baggins qui devient Bilbon Sacquet, etc. Ça c'est toujours fait comme ça en littérature. Personne n'a jamais rien dit. Et il y a que les comics où il y a un truc comme ça où tout d'un coup les gens sur un nom traduit se disent mais ça fait ridicule comme nom, alors que pour un Américain qui lit la BD américaine, le nom a l'air tout aussi ridicule, quoi.
Mais c'est justement pour ça, parce que je pense qu'il y a cette ambiguïté, pas vraiment, mais ce phénomène que les fans de comics soient très au courant en règle générale de ce qui se passe aux États-Unis et que du coup ils sont plus habitués au nom.
Complètement. Et puis concernant le démarrage de Urban Comics, ils sont surveillés là-dessus parce que en fait ils prennent la continuité des séries qu'on a faites, et nous on a fonctionné justement avec un fichier commun, et du coup quand quand les lecteurs retrouvent des personnages qu'ils ont vus chez Panini, mais qui ont changé de nom entre-temps, eh ben là, ça les interpelle tout de suite, normal. Ouais. Donc, je pense que c'est plus ça qui provoque la réaction, parce que je pense qu'à côté de ça, la plupart des pour se rendre compte qu'il y a une traduction, bah, il faut aussi avoir une connaissance de la VO. Et ça, c'est quand même un truc très très exclusif à ceux qui consomment beaucoup de comics, qui sont sur Internet, etc. Je pense que le gros du public se pose pas ce genre de questions.
Alors, ma petite question subsidiaire concernant X-Men Legends, vu qu'à l'époque Wolverine s'appelait Serval, pardon, en français, as-tu repris le nom Serval pour coller à l'époque?
Non.
Ou non, tu as gardé Wolverine?
Non, parce que voilà, nous on est sur Panini, Wolverine c'est Wolverine, donc il n'y a aucune raison qu'il s'appelle Serval.
D'accord, non, c'était juste la petite question subsidiaire, pour savoir. Concernant toujours la traduction, il y a des moments où il y a des expressions américaines ou des références culturelles uniquement américaines.
Ouais.
Je sais pas comment tu fonctionnes, parce que personnellement je ne lis que de la VO, donc au niveau de la traduction, je sais pas trop comment ça se passe en français, mais à partir de quel moment tu décides d'adapter avec une référence qui soit compréhensible par des Français et qui n'ont pas de connaissances US? À partir de quel moment décides-tu de changer, par exemple, une référence à un joueur de football américain, de basket, je ne sais pas.
Tout dépend en fait du contexte dans la BD américaine. Si on est dans un truc effectivement d'une phrase où la comparaison doit dire tout de suite quelque chose aux gens, ben dans ce cas-là, je vais trouver une adaptation. C'est-à-dire que pas forcément de traduire, c'est-à-dire de prendre, si tu parles d'un footballeur américain, de prendre un footballeur français, parce que ça, je trouve ça bizarre, parce que les personnages sont américains, donc ils n'ont aucune raison de parler d'un joueur français, mais de remplacer par un autre footballeur américain dont le nom parlera plus aux Français, quoi. Des choses comme ça. Il y en a qu'un pour lequel je m'autorise carrément à adapter et à prendre des choses dans la culture française, c'est Deadpool. Parce que là, on est dans une série complètement humoristique, barrée, etc. Et le côté pop culture, etc., il doit vraiment être immédiat. Dans l'humour, de toute façon, c'est le cas où je vais un peu me concentrer sur qu'est-ce qui fera que cette blague-là sera drôle en la lisant en français, quoi. En oubliant qui habite où, etc. C'est le plus important.
Oh, Deadpool est assez schizophrène pour être aussi français.
Voilà. Oui. Oui.
Et justement, au niveau des, vu qu'on parle un peu plus des revues, là, est-ce que tu choisis ce que tu vas traduire? Ou est-ce que on te l'impose, que Panini te l'impose? Ou est-ce que toi, tu arrives et tu dis, tiens, j'aimerais bien traduire ça?
Alors, en général, en ce qui me concerne, parce que je suis le seul des traducteurs Panini qui consomme beaucoup de comics, qui en lit beaucoup, donc qui sait ce qui vient, et etc. En général, je peux demander, en général, quand je demande à avoir quelque chose, je l'ai. Ça a été d'ailleurs beaucoup le cas sur Vertigo où j'ai un peu tout bouffé, où j'ai pu traduire tous les gros hits de Vertigo.
Ouais, et d'ailleurs, bravo à toi, parce que ça a vraiment pas dû être facile quand on voit des Unwritten ou des Unread Bullets à traduire, ça doit être une vraie galère.
Unwritten, alors Unread Bullets, donc j'ai pris la suite chez Urban, mais Unwritten, a priori, je le ferai pas, et je souhaite bien du courage à mon successeur sur les volumes d'après, parce que c'est quand même c'est pas évident. Mais c'est drôle, parce que c'est peut-être sur ces albums-là que je prends le plus de plaisir, quoi.
C'est Starman avec, aussi, par exemple.
Starman encore, c'est pas, mais un truc comme Promethea, par exemple, sur lequel je me suis arraché les cheveux. Mais à la fin, je suis fier du résultat, quoi. J'arrivais à un truc. Déjà, quand on traduit une BD, forcément, il faut en comprendre vraiment chaque mot, et donc on plonge beaucoup plus dans le sens du texte d'une BD quand on la lit comme ça. On peut avoir tendance à survoler des passages. Quand on traduit, on peut pas faire ça. Donc, un truc comme Prométhée, j'en ai vraiment décortiqué tous les sens et du coup de pour retranscrire ça en français, et c'était une BD que j'étais un peu passé à côté quand c'était sorti en anglais, et puis je l'ai découvert en ayant à le traduire, quoi, vraiment.
Bien du courage, parce que pour traduire du Alan Moore, quand même.
Ouais, ça dépend, quoi. Le truc, c'est de Il y a toujours plusieurs niveaux Alan Moore, donc c'est surtout qu'on comprend à partir du moment où on comprend de quoi il parle, c'est plus faut se mettre un peu dans son état d'esprit, quoi.
Et justement, avec cette opération Flash Forward où vous avez réduit le temps d'écart, est-ce que tu n'es pas obligé de commencer à travailler sur tes propres comics que tu achètes avant de recevoir le matos pour justement pas perdre trop de temps? Est-ce que ça n'a pas changé ton
Non.
processus de traduction, justement?
Non, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, parce que pour finir ce que je disais avant, c'est que si je choisis des choses, il y a aussi des choses qu'on me propose. C'est-à-dire pas que Panini m'impose, mais que Panini demande est-ce que tu as envie de traduire ça, etc. Et en général, je dis oui parce que j'ai beaucoup de mal à dire non. Et ça fait que voilà, j'ai une pile à côté de moi. Là, j'ai deux tiroirs de trucs à traduire que j'ai et pour lesquels je suis pas encore trop en retard, mais j'ai toujours quelque chose à faire, quoi, et sans avoir à prendre de l'avance. On m'envoie, là, j'ai des BD que j'ai qui sont à traduire quasiment pour la fin d'année, mais que déjà, donc si je veux bosser dessus, ils sont assez réactifs chez Panini. En plus, on va faire évoluer notre façon de travailler, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus travailler sur des PDF. C'est-à-dire qu'ils nous enverront les fichiers par Internet, donc ça va aller très très vite.
Ouais, c'est beaucoup plus simple comme ça, oui.
Ouais.
Et donc, ça veut dire que jusqu'à présent, vous travaillez vraiment qu'avec du papier et des envois postaux? Ah oui, donc
Voilà.
au niveau des retards, oui, ça s'explique aussi.
Et on écrivait, et en plus c'est en Italie, donc tout se passe par courrier, par DHL. Je numérote les BD, je numérote les bulles, j'envoie tout ça. En urgence, et voilà, ça fait énormément de. C'est aussi pour ça qu'on va passer au PDF, parce que ça quand même simplifie le travail de tout le monde et coûter beaucoup moins cher.
Bah, carrément.
La seule chose, c'est une adaptation. Faut plus un peu maîtriser Adobe. Et c'est bien d'avoir deux écrans pour avoir d'un côté le texte et de l'autre côté la BD, quoi.
N'est-ce pas, Nono?
Oui, automatique.
Ouais.
Justement, mensuellement, ça revient à combien de BD à peu près que tu traduis? Combien d'épisodes différents? En moyenne, hein.
Ouais, ça dépend beaucoup. Ça dépend parce que moi, en moyenne, c'est-à-dire que je suis traducteur sur le Marvel Heroes et sur tout ce qui est Deadpool. Je traduis en général les crossovers, parce que justement, comme je lis un peu tout, je suis mieux placé pour traduire ça parce que je saurais mieux de quoi ça parle et qui prévenir pour lui dire attention, j'ai traduit une scène que tu vas reprendre et tout ça, enfin des choses comme ça. Je suis dans une position qui est mieux adaptée pour traduire ces choses-là. Et puis des albums par-ci par-là, enfin c'est difficile de faire une moyenne parce que quand on a par exemple un album de 740 pages comme Acts of Vengeance qui vient s'ajouter au reste,
Oui,
bah c'est pas
effectivement.
quelque chose qu'on étale sur 6 mois. C'est un truc là où tout d'un coup voilà, bah, j'ai 740 pages à faire. Mais voilà, on va dire que je traduis quoi? Entre 300 et 600 pages par mois, quelque chose comme ça, je pense.
Déjà, c'est un bon volume, hein.
Ah oui. Je me suis fait des mois à 1000, hein. C'est.
Je comprends pourquoi tu disais que tu n'avais pas le temps de t'ennuyer finalement.
Mais non, ah non, du tout.
Et justement, au niveau trad, bon, tu nous as dit que tu bossais aussi pour Urban, etc. Et ça te fait pas un petit peu chier de voir tes trads partir justement chez eux, sachant que ça va peut-être être traduit derrière ou autre.
Non, pourquoi ça va pas être traduit derrière, en fait. Le deal avec Urban, il est assez simple. Moi, j'ai des très bons rapports avec eux. Ils voulaient que je travaille vraiment pour eux à part entière. Et je leur ai expliqué que c'était un peu compliqué parce que ayant maintenant justement les responsabilités que j'ai chez Panini éditorial, ça pouvait ressembler à du conflit d'intérêts à un moment, tu
Bien
vois.
sûr, ouais.
C'était un peu compliqué. Et à côté de ça, ils ont racheté les traductions à Panini. Ils dédommagent quand même les traducteurs des anciennes traductions. C'est-à-dire que même si Panini était propriétaire des traductions, il y a quand même quelque chose qui est reversé aux anciens traducteurs. Et juste, il faut qu'on revérifie, voilà, qu'on repasse dessus, etc. Donc, je suis quand même en collaboration avec eux sur les traductions qu'ils reprennent. Et en ce qui me concerne, jusqu'ici, tous les albums qu'ils ont repris, qui avaient été traduits par moi, ils ont repris ma traduction en me demandant de vérifier, quoi, de voir si j'en étais toujours content, etc. Donc j'ai absolument rien à plaindre de ce côté-là. Et en discutant avec Panini, ils m'ont aussi laissé finir Under the Bullets, où il restait plus beaucoup de volume et où ça me faisait quand même un peu mal de lâcher la série à
C'est
trois
pas de
volumes de la
fin.
fin. Ouais,
Oui,
voilà.
c'est sûr.
Et donc du coup, on s'est mis d'accord. Je finis Under the Bullets. Je fais les choses que j'ai pu déjà traduire, qui reprennent. Je travaille avec eux. Par contre, effectivement, pour des choses comme Unwritten, des séries en cours que j'ai commencé, etc., ça risque d'être un peu plus compliqué. Ou pour bosser. Mais à vrai dire, personnellement, ce qui me manque le plus chez DC, c'est Vertigo. J'ai jamais été un grand fan de l'univers DC super-héroïque. Donc c'est pas traduire. Moi, je traduisais DC Universe, des choses dans DC Universe, c'est pas ce qui me manquera le plus.
D'accord. D'accord. Et ça t'arrive de bosser vraiment sur des séries que tu n'aimes pas?
Assez rarement.
Enfin, que je veux dire que toi, en tant que lecteur, tu n'achèterais pas et que tu ne lirais pas parce que ça n'entre pas dans tes goûts, pas forcément parce que ça veut pas dire que c'est pas bien, mais simplement que ça
Ouais,
n'entre pas dans tes goûts, quoi.
c'est assez rare. L'inverse s'est plutôt arrivé, c'est-à-dire que j'accepte un truc sans trop savoir ce que c'est et puis d'être agréablement surpris. Bon, évidemment, il y a des trucs, des fois, des trucs, ouais, bon. Sans que ça me tombe des mains qui soient un peu bon, en général c'est pas les plus compliqués à traduire, c'est des trucs un peu pif paf poum, ça se traduit assez vite, c'est un peu un hold up. Mais comme je travaille aussi sur le planning éditorial, assez finement j'arrive à amener dans les séries que je tra dans les revues que je traduis les séries que j'aime bien, quoi. C'est pour ça que dans Marvel Heroes on a Journey into Mystery et Avengers Academy, qui sont deux des séries
Deux
que
bijoux.
voilà, que j'aime vraiment beaucoup chez Marvel, et elles sont chez moi. Donc
Belle manœuvre, bravo.
voilà.
Et là, par exemple, tout à l'heure, tu disais que c'est toi qui traduisais tout l'univers Deadpool. Est-ce qu'il y a là, par exemple, je viens de lire le Deadpool Max, et je sais que Steve et moi n'avons pas beaucoup aimé, on va dire.
Pas du
Pour
tout pour moi, mais bon.
voilà, moi non plus, j'ai lu. Toi, Steve, tu l'avais lu en VO à l'époque
J'ai
où
lu le
c'était
premier en VO,
sorti.
j'ai arrêté.
Et moi, j'ai lu le 100% qui est sorti le mois dernier, et voilà, j'ai trouvé ça excessivement mauvais. Donc toi, par exemple, vu que tu t'occupes de toute la franchise Deadpool, il y a des trucs comme ça où tu te dis, mais est-ce que ça
Bah moi
mérite
j'aime.
vraiment d'être publié,
Ah non,
quoi?
moi je trouve que c'est la. Enfin, pour moi, Deadpool Max, c'est la meilleure série Deadpool, à vrai dire. Donc on
Mais
sera
les
pas
avis
d'accord
divergeaient sur le
là-dessus.
site aussi,
Oui,
hein.
voilà,
Oui,
non,
c'est vrai.
mais c'est assez. C'est un style, mais moi j'aime beaucoup. Après, l'avantage de Deadpool, c'est qu'on est dans l'humour. Donc moi, mon but, c'est que le truc soit drôle à lire à la fin. Donc ça m'est arrivé je pense, en adaptant une blague, qu'elle soit plus drôle en fait en français que peut-être qu'elle l'était en anglais. Donc c'est pas un truc sur lequel je peux m'ennuyer, parce que comme moi je suis auteur de comédie, j'écris des comédies. De traduire une série comique, c'est un peu les vacances en fait. C'est-à-dire que ça joue vraiment normalement dans mes forces, et c'est un truc où je peux assez facilement m'éloigner du texte. Donc même si un épisode est pas terrible, j'arrive toujours à caser un truc rigolo qui me fait rire moi. Et du coup, ça vaille le coup de le traduire, quoi.
D'accord.
Justement, tu parles de tes pièces. Tu m'offres une transition toute trouvée pour tes projets théâtraux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah, les pièces que tu as en ce moment,
Non,
celles à
bah
venir,
écoute.
peut-être un petit peu de teasing. Hein.
Je peux t'en parler puisque j'ai fini de l'écrire hier soir. Ma prochaine pièce, elle démarrera en octobre prochain. Elle parlera de téléphone portable. Elle s'appelle Aphone.
Un titre que j'aime beaucoup déjà.
Voilà. Et c'est l'histoire d'un nouveau modèle d'Aphone, donc l'Aphone 10, qui, pour la première fois, passe les coups de téléphone à la place de son propriétaire. Et donc c'est le point de départ de la pièce, en fait. Et voilà, j'ai dans ma façon, dans mes pièces, j'ai toujours mélangé les influences, bah, de théâtre, mais aussi de comics. Il y a toujours eu beaucoup d'influences comics. Dans ma pièce précédente, qui s'appelait À suivre, on avait le marteau de Thor sur scène, et un point de Hulk déguisé, enfin, toujours des petits clins d'œil comme ça. Et puis puis j'avais réussi à faire dessiner deux de mes affiches par j'en avais fait dessiner une par Michael Ivanhoeing et puis ma dernière pièce c'était Derek Robertson.
Ça va, ça va.
Ça c'est plutôt sympa. Et là, je suis en train de voir pour la prochaine. Je dis pas qui, mais je suis en train d'essayer de voir à faire à dessiner l'affiche par un autre dessinateur de comics.
Est-ce que tu as déjà une date et un lieu pour cette prochaine pièce?
Oui, parce qu'en fait, moi, je m'occupe je travaille dans un théâtre en fait, qui est le Café de la Gare à Paris.
Et tu dors
En juillet. voilà, donc on fait tourner ce théâtre et donc ça veut dire que je sais que j'ai ma place là et que je vais pouvoir monter ma pièce là. Et là, a priori, c'est prévu pour mi-octobre. Voilà, on jouera 5 fois par semaine à partir de mi-octobre.
Bah donc tous les Parisiens et les gens qui passeront sur Paris à partir de cette date,
absolument,
pour la pièce de Jérémy. Profitez-en.
Bah, si ça se trouve, si sur la pièce d'avant on était partenaire avec Panini, du coup on avait fait des échanges et le visuel était apparu dans certaines revues. Ce sera sans doute aussi le cas, surtout si j'ai effectivement un dessinateur de comics qui travaille dessus.
C'est sûr que ça aide.
Bah, ouais. S'y prête.
Donc justement, vu que tu parles de dessinateur comics, ma transition est également toute trouvée. Comment ça fonctionne pour acquérir des nouvelles séries? C'est-à-dire, là, tu parlais de Derek Robertson, etc. Est-ce que toi-même, t'as des contacts avec les auteurs, etc.?
C'est pas du tout moi qui m'occupe de ça. Moi, en général, les auteurs, je les rencontre à l'occasion d'Angoulême ou du Comic-Con Japan Expo. Mais sinon, pour ce qui est des nouvelles licences, en fait, des nouvelles publications, bah, de toute façon, tout ce qui est Marvel, on passe par Marvel. Et sinon, c'est Marco Lupoi, en fait, chez Panini, qui est chargé de ça, qui est chargé de chasser les nouvelles séries, en fait.
D'accord. Bon, bah, très bien tout ça, dis-moi Jérémy. Maintenant, concernant l'avenir de Panini, tout à l'heure tu as dit que vous aviez déjà bossé sur le planning jusqu'à la fin d'année, on n'a pas encore toutes les infos forcément, parce que tu les dissémines au compte-gouttes, mais comment vous allez, quelles sont vos perspectives d'avenir?
Bah, nos perspectives d'avenir, nous on est beaucoup sur le moyen terme, forcément, maintenant qu'on est à 7 mois de décalage avec Marvel, on peut pas vraiment se projeter au-delà, même si on sait ce qui va se passer après. Enfin, on a des infos internes.
Mais vous êtes quand même en contact avec eux.
On est en contact. On sait ce qui va se passer après Avengers versus X-Men.
On a tous notre petite idée déjà.
On a un peu ouais, mais tu vous trompez sans doute.
On verra.
Donc ce n'est pas un relaunch général des séries Marvel.
Il ne nous le dira pas de toute façon. Comment tu essayes de pêcher l'info, Nono?
Ben oui.
Ça, je vais surtout pas en parler parce que c'est des trucs très très secrets.
Et puis de toute façon, le plaisir est aussi de le découvrir.
Absolument. Mais en tout cas, dans l'immédiat, nous on est donc surtout le second semestre 2012. Et là, la grosse nouvelle, bah, c'est surtout le changement de format des mensuels à partir de juillet, quoi. C'est-à-dire que tous les 96 pages vont passer à 112 pages, tous les 48 pages vont passer à 64 pages pour s'adapter à la nouvelle pagination des comics américains. Et d'un point de vue rapport quantité-prix, ça va être c'est très très bénéfique pour le lecteur puisque
c'est déjà imbattable au niveau du rapport.
Oui, bah oui, on voit bien justement par rapport au tarif que fait Urban pour l'instant sur le kiosque. C'est là aussi qu'on voit que Marvel est plus implanté que DC et que on a plus de latitude pour faire ce genre de choses. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire encore plus d'efforts. Et là, effectivement, on va passer de 96 pages à 4,70€ à 112 pages pour 4,80€. C'est-à-dire que pour un épisode entier en plus, vraiment, on est en dessous d'un euro par épisode, ce qui est vraiment pas cher, quoi.
Alors, par contre, pendant qu'on est sur le sujet du prix, j'ai la petite question qui fâche. Alors, j'ai peut-être pas trouvé l'explication, hein, c'est possible aussi, ça a peut-être été dit, je l'ai raté, mais il y avait eu donc cette augmentation de la TVA qui devait passer en janvier, et finalement elle avait été repoussée au début avril pour tout ce qui concernait les bouquins. Et donc la taxe, enfin l'augmentation a quand même été faite au niveau de Panini depuis le mois de janvier.
Oui. Bah, c'est-à-dire que le.
Est-ce qu'il y a une petite explication à ça?
Mais nous, on avait, on nous a dit il va y avoir une augmentation en janvier. A priori, il n'y avait pas de raison que le gouvernement change d'avis. Et nous, les tarifs, les plannings, etc., ils sont 3 mois à l'avance, quoi. Donc, ça aurait été extrêmement compliqué de revenir sur l'augmentation de janvier. Surtout sachant qu'elle allait quand même avoir lieu 3 mois plus tard. Donc, ça a surtout en fait été un problème en avril parce que certains libraires ont cru qu'il fallait réaugmenter le prix.
C'est ça qui a posé un petit problème aussi, ça.
Et par contre, je sais qu'il y a d'autres libraires qui étaient très contents parce que c'était toujours ça de moins comme album à réétiqueter. Ils ont dû réétiqueter toutes leurs librairies, ce qu'ils vont devoir sans doute faire dans l'autre sens d'ici quelques mois. Il a gauche pas.
C'est bon, ça sera publié après dimanche, on peut en parler. Mmh.
Mais d'accord, voilà, non, c'était juste... les augmentations de tarifs, c'est jamais une bonne nouvelle.
Il y a l'adaptation après, au coût de la vie de toute façon, c'est obligatoire.
Voilà, il y a des adaptations. Après, il y a des trucs qui augmentent plus ou moins, mais c'est vrai que je pense que sur le cœur de l'offre kiosque Marvel, on est quand même sur un truc qui a toujours été très compétitif et qui va l'être encore plus quand on arrive en juillet.
Puis quand on voit des numéros extra avec qui font en fait des petits TPB pour 5,70€ maintenant du coup,
c'est ce qu'on a toujours dit nous, c'est on a toujours défendu ça, c'est-à-dire que quand t'as des revues extra qui ont la forme, qui ont le contenu d'un TPB, par exemple.
Ce mois-ci, par exemple, on a le Avengers Extra avec la mini-série Thor First Thunder, par exemple.
Voilà. Voilà. Et c'est vrai que celui qui veut le lire en VO, il va le trouver au double du prix.
Même en case, on le trouve pas à 5,70€. Quoi.
Bah ouais. Mmh. Moi, je me souviens, c'était le Fantastic Four, 1, 2, 3, 4. Le 3, avec la mort de Johnny Storm. Mmh. Ben voilà, c'est vrai qu'on l'a eu 6 mois après la sortie VO. Et à 5 et quelques, c'était imbattable.
Et toute la saga. Oui, et puis moi je sais qu'il y a pas mal de lecteurs de VO là, voyant justement ce qu'on prépare pour juillet, qui se posent la question sur certains titres, parce que ça, même s'ils suivent qu'une ou deux séries dans la revue, ça va devenir intéressant quand même de revenir à la VF.
C'est quand même plus facile, quoi. On revient à quoi? 2€ l'épisode? Même pas 2€ l'épisode actuellement. Ça revient quand même moins cher, quoi qu'il arrive, que la VO.
Ouais, de toute façon, moi, je lis très peu de VF.
Sur les mensuels, on serait carrément en dessous d'1€ par épisode.
Moi, je lis très peu de VF, et c'est vrai que quand j'achète principalement tout en VO, et il y a des mini-séries où je me dis, ça va sortir soit en 100%, soit en extra. Et du coup, autant que j'attende 6 mois, si elle a pas un impact énorme sur la continuité, je vais attendre et ça sortira en VF et puis voilà quoi.
Tu veux continuer sur les projets d'avenir peut-être?
Écoute, nous pour l'instant, ce dont je parlais, c'est vraiment là-dessus qu'on est concentré, quoi. On appelle ça Marvel XXL, quoi. Toutes les revues qui grossissent. Et on est très concentré dessus parce qu'on a encore changé quelques détails dessus dont je parlerai de la newsletter de vendredi prochain. Mais voilà, je pense que ça va être un vrai plus Fury Cell sera fini, on sera vraiment sur un nouveau départ de l'univers Marvel avec Avengers vs X-Men qui arrive en fin d'année, qui s'annonce comme un très très gros truc. Et là on voit comment ça démarre aux États-Unis, en plus les retours pour un crossover sont quand même très très positifs. Et ça, je pense que ça va marcher très fort en fin d'année, quoi. Et après
il y a des chances, oui. Surtout pour le dernier.
Voilà. Et après, on verra. On verra ce qui se passera. On trouvera toujours des nouvelles choses à faire. Oui.
Petite question subsidiaire. Est-ce que tu aurais une info à nous lâcher qui serait pas encore sortie et que tu aurais l'autorisation de nous dire, style qui va sortir la semaine prochaine ou un truc comme ça?
Écoute,
de chez Panini, bien sûr.
Concernant ce que je dis là pour le mois prochain, on se dirige vers un relaunch en fait sur les titres de juillet. C'est-à-dire en fait on est tellement content de ce nouveau format, etc. On trouverait ça dommage que tout le monde n'en profite pas parce que on est au milieu d'une histoire ou c'est pour ça qu'on a réorganisé le programme des titres de juillet, de juin, je veux dire, pour qu'en juillet, dans la majorité des séries, on démarre une histoire et que on puisse un peu redémarrer tous les kiosques du numéro 1.
D'accord.
Voilà. Donc ce sera vraiment un gros point de départ juillet pour ou revenir à la VF pour ceux qui en sont partis ou pour ceux qui ont vu Avengers qui découvrent un petit peu ce que ça peut être l'univers Marvel, parce que on n'a pas parlé du film Avengers, mais moi ce que j'entends beaucoup là, parce que je bosse avec Disney sur la presse et tout ça, et je m'aperçois que ceux qui sont pas dans le milieu comics, le fait d'avoir plusieurs héros qui se rassemblent dans un même film, etc., ça les interpelle. C'est quelque chose dont ils pensaient pas que ça existait en BD. Et du coup, je pense qu'il va y avoir une curiosité quand même par rapport à ce film-là, sur comment ça fonctionne les comics, en fait, vraiment.
Et toi, tu as eu l'occasion de le voir, Avengers?
On est quel jour? Je le vois lundi. Je vais à l'avant-première au Gaumont-Marignan. Avec toute l'équipe de Panini et puis 10 fans qui ont dû gagner des places sur la page Facebook justement et voilà, on le voit lundi soir.
D'accord.
Mais bon, j'en entends le plus grand bien.
Oui, nous c'est vrai que pour l'instant, de la part des fanboys hardcore, il y a très peu de mauvaises critiques.
Ça laisse présager du meilleur en tout cas.
Ouais.
Moi j'ai une dernière petite question. Qui n'a un petit peu rien à voir avec le comics, mais alors c'est vrai que ces derniers temps, j'y suis pas trop passé, mais je suivais de temps en temps ton blog où tu parlais aussi beaucoup des séries que tu regardais, parce que tu es un grand fan de séries. As-tu encore le temps d'en regarder?
J'ai le temps d'en regarder, j'ai absolument pas le temps d'écrire sur mon blog. Ça va changer parce que quand j'avais créé mon blog, c'était aussi pour faire la promo de mon dernier spectacle. Oui. Et là, comme je vais en avoir un autre en cours, il va falloir un petit peu que j'en parle et que je me remette un peu là-dessus. Mais là, voilà, on a parlé de tout ce que je faisais et il y a quelque chose qu'il fallait lâcher un peu quelque chose et ça a été mon blog. Mais pour ce qui est des séries, ça reste un truc, que donc je suis assez consommateur, qu'on regarde avec ma chérie régulièrement le soir. On se fait des sessions une fois que le petit est couché. Et donc, en ce moment là, on est sur Justified saison 1.
Ah, magnifique. Voilà.
après avoir regardé justement Game of Thrones saison 1 aussi. Et après, voilà, je crois qu'on enchaînera sur la dernière saison de Dexter qu'on n'a pas encore vu.
Ah,
ah oui, non, nous on est dans le haut du panier quand même.
Oui. Dexter, tu vas voir. Je t'en dis pas plus, mais c'est assez impressionnant.
Ah, moi je m'étais fait spoiler la fin de la saison 4 bêtement. Ah oui, j'étais pas content.
Tu m'étonnes.
J'ai du mal, moi, parce que je suis encore à la saison 2 et j'ai du mal à éviter les infos. Je suis bloqué à la saison 2 depuis 3 ans, Marc.
Attends, tu le cherches un peu, là, quand même.
Un jour, il faudra que je reprenne. Non, mais à trop en suivre, voilà. Mais je pense que c'est un petit plaisir de tout.
Oui, voilà, on essaie d'alterner avec des films. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on se regarde des films aussi régulièrement. Et le format de la série télé a pris une telle ampleur, a donné une telle qualité qu'il y a peu de films finalement qui arrivent à rivaliser avec l'attachement qu'on peut avoir sur des personnages de série en un film d'une heure et demie, deux heures, quoi.
C'est
pas évident.
je regarde principalement que des séries, je ne regarde quasiment plus de films en fait.
Le
format série me convient beaucoup plus en fait.
Il faut vraiment une vision de réalisateur, de bons dialogues, etc.
Ah, puis c'est une histoire de temps aussi, parce qu'on se dit, bon, moi, je suis parti pour 42, 45 minutes.
Oui, alors ça, c'est un piège, parce qu'en général, quand on part sur une série, on se regarde 4 d'affilée, et puis
on passe plus de temps à regarder qu'un film, parce que quand on se dit un film, oh là, 1h30, 2h, je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout, non, on va regarder une série, et finalement, on en regarde 4.
Sauf que les films et les bonus, ça peut rallonger aussi.
Oui, aussi. Très bien. Mais en tout cas, je te remercie énormément, Jérémy, de t'être rendu disponible pour cette petite interview.
Pas de problème.
J'espère que tu n'as pas perdu ton temps, en tout cas. Que
c'était très agréable. Après, je vais me mettre au travail, hein, mais.
Ah oui, c'était très sympa. Il y a des pages à traduire maintenant.
Ouais.
En tout cas, merci vraiment de ta gentillesse et de t'être rendu disponible comme ça.
Ouais. Merci à vous deux.
Surtout un samedi après-midi, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on enregistre le samedi après-midi.
Oui, mais ça, voilà, je suis complètement décalé par rapport aux horaires normaux, moi, donc aucun problème.
C'est vrai que tu m'avais proposé 23h samedi dernier.
Oui.
Ça ne m'aurait pas dérangé, moi, perso, ça ne m'aurait pas dérangé. À 23h, je suis jamais couché. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est sûr. Merci beaucoup, merci Jérémy. Beaucoup. Bah, on te retrouve donc très bientôt dans toutes les choses que tu traduis. Bientôt au théâtre aussi. Peut-être même encore
Facebook,
actuellement.
Sur Panini, sur la newsletter, etc., etc.
Partout. Et même sur mon blog bientôt.
Mais si tu veux en profiter pour donner l'adresse, ce sera avec plaisir.
De mon blog, c'est www.jérémymanès.com. Jérémy avec un Y et Manès de DSE.
Ouais, j'y suis là sur ton blog et je viens de voir que ta sœur est également connue.
Ouais, enfin, elle a fait X Factor l'année dernière et là elle va jouer en fin d'année dans Sister Act qui est montée en France.
D'accord.
Musical.
Donc une famille artistique.
Ouais.
Un peu.
Merci beaucoup Jérémy.
Et merci à vous.
Ouais, merci beaucoup.
Et à très bientôt pour un prochain épisode.